L'actualité des rêves par Lucie Iacovelli. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons bien-être, un podcast consacré à la santé mentale. Aujourd'hui, nous débuterons avec une revue de presse sur l'actualité entourant un trouble de l'attention qui suscite un intérêt croissant, le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous aborderons également une facette moins connue de ce trouble, la rêverie compulsive. Pour explorer ce phénomène, nous irons à la rencontre d'Adélie Weber, qui partagera son expérience avec nous. Un aspect méconnu du TDAH est souvent sous-diagnostiqué chez les filles et les femmes. Dans CQFD, un podcast de la RTS, le professeur Nadine Perrou explique que des stéréotypes de genre et des symptômes plus discrets contribuent à ce retard du diagnostic. Avec des répercussions importantes sur leur vie quotidienne, ces femmes sont souvent diagnostiquées à l'âge adulte, et ce, bien après avoir souffert en silence. Selon 20 minutes, les cliniques suisses font face à une augmentation impressionnante des demandes de diagnostic, notamment chez les adultes, avec une hausse de 40% en un an. Les délais d'attente pour les consultations spécialisées peuvent atteindre jusqu'à 12 mois. Ce phénomène reflète une meilleure reconnaissance du trouble, mais aussi une saturation des services médicaux. Parallèlement, la consommation de médicaments comme la Ritaline a explosé. En 2019, environ 600 000 personnes en Suisse en recevaient. Ce chiffre a grimpé à 92 000 l'année dernière, doublant en seulement 5 ans. Amélie Dent, spécialiste du TDAH, explique dans l'émission Forum de la RTS que cette hausse est due à une formation accrue des professionnels, permettant plus de diagnostics, particulièrement chez les adultes. Dans ce contexte d'augmentation des diagnostics et de meilleure compréhension du TDAH, un phénomène émergent commence à retenir l'attention, la rêverie compulsive. Souvent associée au TDAH, cette condition met en lumière une autre manière dont les individus gèrent leur attention et leurs émotions. Présentée notamment sur des plateformes comme TikTok, la rêverie compulsive pousse certaines personnes à plonger dans des scénarios imaginaires intenses et prolongés, au point parfois de perturber leur quotidien. Mathilde Depolis, psychologue, décrit ce phénomène comme un mécanisme d'évasion face à une réalité perçue comme insatisfaisante. Ces rêveries offrent une bulle de créativité et d'évasion tout en jouant un rôle dans la gestion des émotions. Cependant, elles peuvent aussi entraîner frustration et isolement. Cette revue de presse met en lumière les multiples facettes du TDAH, de l'augmentation des diagnostics à la reconnaissance du trouble associé, comme la rêverie compulsive. Restez avec nous pour la suite de l'émission, où nous rencontrerons Adèle Weber, qui partagera avec nous un témoignage poignant sur sa propre expérience. Bonjour Adélie, merci à toi d'être venue nous raconter ton témoignage sur la rêverie compulsive. Est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle Adélie, j'ai 15 ans et j'habite à Malraux.
Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as découvert le trouble de la rêverie compulsive ? Et est-ce que tu te l'es fait diagnostiquer ou est-ce que c'est un auto-diagnostic ?
Eh bien, c'est un auto-diagnostic du coup, parce que en fait, je fais ça depuis pratiquement toujours. Déjà à la crèche, elle disait à ma mère que je restais dans mon coin et que je disais rien et que je restais dans mon monde. J'avais l'air de penser à autre chose complètement tout le temps en fait, finalement, parce que j'étais quelqu'un de pas très sociable, je le suis toujours pas beaucoup. Mais j'ai commencé à le remarquer vraiment que c'était quelque chose de pas vraiment normal quand y a certains camarades qui sont venus me parler pour me dire que des fois j'avais l'air un peu ailleurs et que j'avais pas l'air d'écouter ou que j'étais dans un autre monde, et ce qui est le cas du coup.
Et est-ce que toi ça t'affecte au quotidien ?
J'avais 10-11 ans, alors sur le moment je me suis dit c'est vrai que je suis bizarre, ça doit se remarquer du coup, il faudrait que je change. Et puis au final j'ai jamais changé donc...
Je pense pas que ce soit si grave.
Ouais, parce que ben à cet âge-là, les enfants, ils ont pas l'habitude qu'il y ait quelque chose de différent. Alors je leur en veux pas spécialement, ils pouvaient pas savoir, donc voilà.
Comment est-ce que tu décrirais tes rêveries ? Est-ce que en fait c'est un processus qui est spontané ou est-ce que c'est contrôlé ?
Alors, je pense que vu qu'à la base c'est venu de moi-même, c'est en même temps contrôlé et en même temps pas trop. Parce qu'il y a certains moments, je déconnecte de la réalité. Je peux arriver à stopper ça, mais quand même ça peut venir comme ça. Donc je le contrôle à moitié.
En fait, je voulais savoir, est-ce que le fait de rêver, ça te prend beaucoup de temps dans ta journée ? Parce que selon les articles, on dit que quand tu as une rêverie compulsive, en fait, c'est quand tu passes plus de 30% de ta journée à faire que ça et donc perdre ton temps sur la vie quotidienne.
Alors je pense que je passe plus de 30% à faire ça, mais je peux le faire en faisant d'autres choses en même temps. Pendant les pauses, pendant que je mange, bah, je pense à autre chose, je fais mes rêves, je peux me poser et vraiment complètement penser à autre chose. Hein. C'est pas forcément bien, mais voilà.
T'as dit qu'à un moment de ta vie, t'arrivais pas trop à gérer ça. Et est-ce que tu saurais me dire un petit peu c'était quoi les difficultés par rapport à ça?
Eh bien, bah, c'était, je crois, à partir de ma septième année. De ma septième année à ma huitième année, j'ai eu... j'avais de la peine à l'école. Enfin, pas spécialement scolairement, mais dans l'ambiance de la classe, c'était vraiment mauvais. Et du coup, je me renfermais vraiment dans mes pensées. Et du coup, bah, pendant que le prof, des fois, il expliquait quelque chose, eh ben, je ne pouvais pas me concentrer, en fait. Je pensais à autre chose. À part avec certaines personnes qui étaient dans ma classe et qui me trouvaient très bizarre et qui me le faisaient bien savoir, je n'ai pas eu spécialement des soucis. En tout cas, mes amis... c'est quelque chose que j'arrive plus ou moins à bien cacher, finalement. C'était justement dans cette période de fin de primaire où bah, là, je ne le contrôlais absolument pas. Et y a eu une personne qui est venue me dire « Oui, t'es bizarre, pourquoi tu fais ça ? Personne ne fait ça, t'es pas normal, il faudrait que t'ailles consulter. » Voilà, des choses comme ça qui ne sont pas très gentilles.
C'est très culotté, surtout.
Et du coup, à part ça, j'ai pas eu vraiment de soucis. Ma famille trouve ça plutôt mignon, donc...
Donc, t'as dit que ces moments de rêverie, c'était pour toi une source de plaisir. Mais est-ce que tu considères que c'est aussi comme de la défense ?
Oui et non. Donc, parce que je pense que ça s'est fait parce que je voulais me renfermer donc, à la crèche. Parce que ben, moi, honnêtement, les enfants, je les trouvais très bruyants, très pénibles. Pardon, mais les enfants à cet âge, c'est pas très calme, quoi. Et j'étais vraiment un caractère seul, très calme. Enfin, le seul enfant vraiment calme. Alors, bah, je pense que oui, pour me protéger et pour pas devoir jouer avec eux, je pense vraiment honnêtement, c'était ça la raison. Je me renfermais dans mon coin et je pensais à des choses, quoi.
Est-ce que tu trouves que la rêverie compulsive, c'est quelque chose de mauvais, même si ça peut être agréable?
Oui, ça peut être quelque chose de mauvais, dans le sens où, si justement t'arrives pas à te concentrer quand c'est important, là, ça devient mauvais. Ou quand tu restes réellement, tu penses vraiment que à quoi tu rêves, c'est réel. C'est aussi, je trouve, plutôt dangereux et toxique, finalement. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que là, il faut faire attention et essayer vraiment de voir un spécialiste et parce que là ça devient dangereux et que on peut finalement vraiment complètement déconnecter et puis perdre tout son entourage et vraiment finir dans des choses mauvaises, mais par chance c'est pas mon cas, donc
Et donc finalement on peut quand même dire que ça t'apporte plus de positif que de négatif dans ta vie de tous les jours.
Oui, maintenant oui, ça m'apporte plus de positif que de négatif.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de ce témoignage. Merci à toi d'avoir été présente pour le podcast.
Merci à toi.
Voilà, et pas un tout bon.
Merci.
On Prenez soin de votre santé mentale comme de votre corps. Parlez-en, écoutez-vous et n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine dans Parlons Bien-être.